par rapport des autres pays, ils ont un nombre de cas de Covid qui c'est ridicule par rapport aux autres pays, par exemple l'Europe. Et jusqu'à là, et je pense qu'ils ont eu moins de 9 000 cas du début de la pandémie, et c'est incomparable pour les autres. Et ils ont des tas de protections là pour pas se bouger librement. Ils m'ont dit aussi que, par exemple, en se bougeant d'une région à l'autre, parfois il y a des cas qu'il faut faire le confinement dans le passage d'une région, dans le même pays.
Ah
Donc,
oui. C'est plus sévère, en fait, leurs règles sont plus sévères que les nôtres. Parce que nous,
Donc,
tu
je
sais,
parle avec Eric Dufour.
Oui, okay. Ah, ok, tu connais Eric?
Ah, ok. Non, 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 mais avec plaisir, mais j'avais entendu que là, c'était avec Christian qui m'avait contacté.
Je
Et
suis
donc.
Christian. Je suis Christian. En fait, c'est marqué Éric Dufour parce que, en fait, le logiciel qu'on utilise là, on l'a pris au nom d'Éric Dufour,
Ah, ok.
mais c'est bien Christian qui te parle.
Ah, ok, très bien, ça va donc. Ok, je comprends maintenant.
Ouais, c'est
Ok,
il
très
fallait
bien.
mettre un nom de compte. Et puis c'est Eric, mon
Oui.
collègue. Pour ça, je me disais, tu connais Eric Dufour?
C'est ça.
Ok,
Ah,
bah,
oui, d'accord.
c'est correct. Et en tout cas, tu parles super bien le français.
Bah non, en fait, j'ai un peu fait des essais avant de parler avec toi, et parce que j'adore le français, mais il me faut un peu
Pratique.
d'exercice avant de
Pratique.
parler, donc pratique, ouais, voilà, faut de pratique avant de parler. Donc, je sais pas si on est déjà dans l'entretien, mais je vais m'excuser pour mon français qui parfois c'est pas précis pour l'expression que j'utilise.
Ça va être plus que correct. Mais c'est Yves Lacroix que tu connais.
Oui, d'accord, oui,
C'est lui qui
bien
m'a
sûr,
dit, tu vas voir, il parle très bien le français.
grand
C'est ce qu'il a dit, Yves.
ami.
Attention.
Ah bah alors, je
Si
fais
Yves l'a dit.
confiance, mais Yves, c'est toujours très gentil.
Oui, toujours.
Oui, c'est.
Toujours. Puis il a à cœur le français.
Oui,
Parce
c'est
que,
ça.
tu sais, il est, comme il dit,
Ouais,
hein,
on s'est rencontrés.
il est entouré de plein d'anglais. Parce que le Québec est la seule
Ah,
province, le Québec est la seule province où on
oui.
parle français. Donc, il est. Ok, bah, Fabio, regarde, on va débuter.
Ok, bon, ça va,
Je
donc. On...
t'avais envoyé les questions, hein, pour que tu puisses un petit peu déjà y réfléchir.
Oui.
Donc, je vais commencer. As-tu été ou es-tu encore un joueur de badminton? Et si oui, si tu as été un joueur de badminton, depuis combien de temps tu joues au badminton?
Bah, ça c'est ça commence de façon un peu bizarre parce qu'en fait, j'ai jamais, presque jamais été un joueur de badminton.
Ok.
Et je sais que beaucoup de gens trouvent ça un peu surprenant parce que il y a beaucoup d'arbitres qui viennent de la division du jeu, qui viennent par exemple comme mon cher ami italien Andrea Capini, qui est l'autre arbitre italien BWF, qui était un joueur pas mal avant de se blesser un genou et alors commencer à arbitrer. Et où sont par exemple des enseignants d'éducation physique, donc ils pratiquent déjà, ils travaillent déjà avec le badminton. Et moi, j'ai presque jamais pratiqué le badminton, mais j'ai ma raquette, par exemple, mettons, j'ai même pas ma raquette parce que je l'ai cassée, ça fait pas longtemps, et donc je vais pas la racheter. Et par exemple, hier, on a fait un petit tournoi, un petit pratique de badminton entre le groupe d'arbitres là en Thaïlande, c'était avec après les finales, donc on pourrait faire groupe un peu, et je confirmais que je suis presque nul à jouer au badminton. Et donc mais j'ai toujours eu une passion pour le rôle de l'arbitrage dans le sport. Par exemple, si tu fais un exemple, tu sais qu'en Europe, surtout en Italie, on joue beaucoup football. Je ne sais pas si en Canada, c'est football ou soccer comme les
C'est
États-Unis.
soccer.
C'est soccer, voilà. Alors, tout le monde joue au soccer et moi, quand j'étais tout petit, je voulais arbitrer. Et tout le monde se demandait pourquoi. Et maintenant, ben, j'ai toujours une passion pour le rôle d'arbitre.
D'arbitre.
C'est pour ça que, en fait, ça c'est lié avec le rugby, que c'est, j'utilisais, on s'écrivait avant de se voir aujourd'hui, que j'ai commencé comme arbitre rugby, parce que j'avais vu en petite affiche dans ma ville, deviens arbitre de rugby. Et j'ai toujours aimé le rugby. Et ça c'était après mes études à l'université, et alors je commençais avec le rugby. Mais, je travaillais, je n'arbitrais pas tous les dimanches, pas le semaine, pas toutes les semaines le rugby. Donc, j'ai commencé à demander des sports différents, de contacter le responsable, les gens qui s'occupaient des juges, de recrutement des arbitres et tout ça. Et le seul qui m'avait re-appelé au téléphone, c'était le responsable régional du badminton.
Ah, ok.
Alors, je commençais à entrer Et je l'ai mis à côté du rugby au début, et puis le rugby qui m'a. Je suis toujours, encore, je joue encore arbitre de rugby, mais presque à la fin de ma carrière, maintenant avec le Covid, c'est un peu plus difficile. Mais le badminton a commencé à remonter jusqu'à quand il est devenu le premier sport à arbitrer pour moi.
Ok.
Et, donc, et même au rugby, je n'étais pas joueur. Mais je suis toujours intéressé au sport. Je suis dizaines de sports, le foot, le tennis, tout ça. Et dans chaque sport, j'essaie de regarder qu'est-ce que les arbitres font pour prendre des petits trucs, des petites choses
Ouais.
des différents arbitres.
Donc en fait, c'est le fait que la personne du badminton t'ait contacté et c'est pour ça que tu es parti dans le badminton en fait.
Oui, j'étais curieux sur le sport parce
Oui.
que c'est un sport qui a toujours été pas très connu en Italie dans ce temps-là. Je te parle de 18, il y a 18 ans quand j'ai commencé, dans 2003, l'année 2003. Et il y avait le badminton en Italie parce que la fédération est née dans les années 70, mais c'était pas développé par exemple dans les écoles comme maintenant. Et j'étais très curieux parce que je voyais ces sports aux Jeux Olympiques et je disais, mais qu'est-ce que c'est ça? Alors, j'étais curieux, je commençais à m'intéresser. Et alors, j'aime un peu la connaissance des sports qui ne sont pas très connus dans mon pays, bien sûr. Et alors, je commençais comme ça. Et alors, le reste est devenu naturel.
OK.
J'ai commencé avec les tournois régionaux. Puis je commençais, après un an que j'avais commencé, j'étais invité dans les championnats nationaux italiens. Et l'an suivant, j'allais faire mon premier tournoi européen. Et c'était au 2004, la Coupe d'Europe, qui c'est l'ancien nom des championnats d'Europe par équipe, comme ça s'appelle maintenant.
Ok. Et est-ce que c'était à
Donc j'ai
Lausanne?
commencé avec ça. Non, c'était aux Pays-Bas et
Ok.
c'était à près de Haarlem. C'était
Ok. Ok.
près de
Ok.
Haarlem
Aux Pays-Bas. Ok. Et du coup, alors là, tu as
Okay.
répondu à trois ou quatre questions, c'est parfait. Tu parles quelle langue? Mais c'est correct, c'est
Moi, je
parfait.
parle. Alors, j'essaie de parler italien. Non,
Ouais, c'est
je
ça.
parle
T'es
parfois
pas
italien,
très
bien
bon en
sûr.
italien. Je
Et
pourrais
ouais.
peut-être t'aider un petit peu en italien si tu as des difficultés.
On peut faire mieux, on peut faire mieux. Et le français, j'ai toujours adoré, donc j'ai l'étudié pour moi-même. Et aussi parce que j'ai passé un an d'université à Lyon, en France,
Ah,
donc on est resté un peu. Et l'anglais à l'école et dans les voyages. Et je parle aussi l'espagnol, pareil à l'italien, donc, et mon frère habite à Madrid, en Espagne, donc quand on s'écoute, on parle entre italien et espagnol. Et je parle un petit peu de portugais et un petit peu d'allemand maintenant, parce que moi,
Okay.
j'habite entre l'Italie et l'Allemagne. Bon, c'est un peu compliqué.
Ouais, mais là tu es obligé de parler un petit peu allemand.
Ah oui, d'accord. J'allais en Allemagne maintenant et un peu plus il y a un an, donc mon allemand c'est encore un peu. Il faut travailler sur ça. Et en
Surtout,
Allemagne, ils parlent
c'est
beaucoup
tellement
l'anglais,
différent.
donc c'est facile de trouver
Bon, hein.
des.
Mais c'est tellement différent entre une langue, bah, l'allemand et puis l'italien ou l'espagnol. C'est tellement différent que ça doit être difficile.
Oui, l'italien, français, espagnol, c'est la même structure, bien sûr.
Oui.
Et l'allemand, c'est ces différentes structures et compréhension aussi. Donc l'allemand, c'est le plus dur à gérer
Ouais.
un peu. Oui.
Ouais.
Maintenant, j'ai beaucoup de amis en Allemagne, et donc je comprends un peu mieux qu'avant.
La pratique, la pratique. Faut que tu pratiques l'allemand.
Allô? Oui,
M'entends-tu?
il faut que je pratique l'allemand. Oui, il y avait une petite pause de la connexion.
Ok. Bah t'es loin à Bangkok, c'est pas tout proche. M'entends-tu?
Tu veux dire comme langue ou
Non,
ou
c'est
lieu que
loin
tu
le
visites?
pays, Bangkok.
Le lieu que tu habites.
C'est loin à Bangkok. Alors
Ah
la
oui.
communication, c'est peut-être
Ah oui,
difficile.
c'est un peu long, oui, avec la communication. Oui,
Ouais,
j'essaie
ouais.
aussi de fermer des trucs que j'ai dans mon ordinateur, donc peut-être que la bande est un peu occupée.
Non, c'est correct. Donc à la question,
C'est
depuis
bon.
combien d'années es-tu officiel? Ça fait 18 ans.
Ben, ça fait 18 ans, je commençais en 2003 et international de 2004, 2004-2005. Et puis il y avait des différents évaluations que j'ai eues pour passage au niveau continental pendant les années. Donc je suis venu continental dans le 2006, 2009 aussi un autre, et je suis venu BWF 2012 au Japon pour les
Ah,
championnats du monde junior.
ok. Est-ce que la fonction d'arbitre en chef, referee, je sais pas comment on dit en, est-ce que la fonction d'arbitre en chef, elle t'intéresse? Parce que vu que tu aimes l'arbitrage, pas peut-être faire plus que
Oui.
l'arbitre de partie, puis être arbitre
Bah,
en
la
chef,
fond,
tu sais.
le... Bah, alors, jusqu'à là, j'ai arbitré dans un niveau régional ou national en Italie, comme j'ai fait les juges arbitres parfois. Et c'est vrai que je trouve un peu plus passionnant d'être arbitre, d'être sous la chaise d'arbitre dans les matchs.
Okay.
Pour moi, c'est d'être un peu plus proche de l'action du badminton. Donc, j'adore ça, cet aspect de l'arbitrage. Je fais juge arbitre parfois, ou arbitre chef, comme vous dites,
Au Québec.
avec plaisir, avec beaucoup de plaisir. Oui, avec beaucoup de plaisir, parce que c'est un rôle un peu différent et qui te permet d'avoir un regard différent sur la compétition, un regard différent sur le badminton. Et c'est beaucoup plus de travail avant et après la compétition. Ça, c'est vrai. Même l'arbitre, c'est un peu comme ça. Donc, tu montes comme concentration pour le match. Là, tu vas un peu. Voilà, tu baisses maintenant et tu prépares pour le prochain match, tu remontes et tout ça. Et le juge arbitre, ils ont le problème qu'ils doivent être toujours concentrés sur leur travail parce qu'ils font écouter les organisateurs, écouter le BWF, écouter les arbitres, bon, pour avoir des problèmes d'organisation. Donc tout le monde pense que les juges arbitres sont coincés à leur table avec l'ordinateur tout le temps, mais c'est pas comme ça. Donc il y a une. Constamment, il y a une petite tension dans le travail de juge arbitre. Si, par exemple, si je
Okay.
vois les juges arbitres, mes amis qui sont là à Bangkok, on a aussi les problèmes du Covid. On a eu des petits cas positif là à Bangkok entre les joueurs, et donc il faut manager les withdrawals, il faut manager. Il y avait des équipes par exemple qui sont été déclarées haut risque, donc ils ont eu moins de slots pour s'entraîner dans le terrain d'entraînement. Donc c'est pas facile en général d'être des juges arbitres. Je ne vais pas excluder que à la fin de ma carrière d'arbitre, je vais être plus concentré aussi avec le juge arbitre. Mais jusqu'à là, je
Mais
préfère
pour l'instant,
l'arbitrage.
c'est ça. C'est ça.
Oui, pour l'instant, ça va.
OK. Selon toi, depuis que tu es arbitre, donc depuis les 18 années où tu arbitres, pour toi, quelle a été la principale évolution de l'arbitrage, selon toi? Qu'est-ce qui a évolué?
Bah,
Comment tu as dû t'adapter?
oui, alors l'adaptation, c'est un des keywords, non? Les mots-clés de l'arbitrage. Il faut s'adapter aux différentes situations que tu trouves dans un match, dans un tournoi, dans une saison de sportif, et aussi l'évolution des règlements et même de la façon d'arbitrer. Quand j'ai commencé, par exemple, mais je pense qu'il était même avant que j'ai commencé, le badminton était en train de se développer de cette façon plus, à dire, professionnelle de l'arbitrage, un encadrement, un cadrage, je ne sais pas comment dire, très, beaucoup plus, oui, précise des rôles de l'arbitre, du juge arbitre, et même l'organisation au niveau continental se développait avec une structure d'évaluation d'arbitre, avec les assesseurs, avec un règlement pour la carrière. Et par exemple, il faut toujours avoir 2 ans minimum entre les différents niveaux pour monter de niveau. Mais tout ça, il n'y avait pas avant. Mais sur le terrain aussi, il y avait une situation très très intéressante aussi quand j'ai commencé. Par exemple, pour moi, c'était vraiment un monde complètement différent, un monde de nouveaux amis. Et puis, chacun, il est devenu un peu plus professionnel, un peu plus, justement, je vais dire, parce que le sport va se développer et maintenant, c'est un sport qui, avec beaucoup d'inclusion des sponsors, d'organisations ponctuelles, d'organisations avec des grands. Il y a beaucoup d'argent aussi qui est dans le monde du badminton, heureusement, parce que ça aide à développer le sport donc, de façon très spectaculaire pour les spectateurs, pour l'intérêt de notre sport, d'une façon très professionnelle pour les joueurs qui sont garantis de livrer des prestations et leur capacité, leur habilité dans la façon la plus idéale, non? La façon idéale de leur sport. Donc, ça a développé beaucoup. Et maintenant, on a, par exemple, par rapport aux arbitres, des caractéristiques qui sont très, très encadrées, très précises pour chaque niveau d'arbitrage qu'il faut passer, par exemple. Donc, on sait qu'au niveau continental, il faut développer, on attend d'un arbitre d'être capable de gérer ce type de situation du niveau mondial, de développer aussi des autres caractéristiques. Et tout ça, il n'y avait pas avant. Donc, c'était une très belle famille avant. Il est toujours une très belle famille. Mais maintenant, on est une famille qui a aussi qui est la première à être dans le monde des arbitres, de penser que c'est probablement le métier le plus intéressant du monde, mais aussi qu'on va dans un tournoi pour travailler tout d'abord. Et puis, l'ambiance, c'est toujours la meilleure. Mais maintenant, c'est un peu plus côté professionnel. Maintenant, on a aussi les arbitres professionnels, les juges arbitres professionnels. Donc, on voyage vers dans un stage différent maintenant, en gardant l'esprit de l'arbitrage, le plaisir de l'arbitrage. Il faut jamais oublier le plaisir de l'arbitrage. L'arbitrage, que c'est le moteur
Eh
des jeunes arbitres qui commencent à arbitrer.
oui. Ouais. Non, c'est ouais, c'est sûr que si t'as pas de plaisir à faire ce que tu fais, ça va pas être super. Ok, super. Dans quelle compétition as-tu eu la chance
Tu m'écoutes,
d'arbitrer?
hein, parce qu'il y a
Oui, je t'écoute.
parfois.
Il y a un temps.
Ok, parce qu'il y a, oui, il y a un temps, oui, voilà. Alors, compétition
Ouais.
arbitrée, ben, jusqu'à là, il y en a. Je fais championnat du monde, Thomas Super Cup, Sudirman Cup, championnat du monde junior, Jeux olympiques de la jeunesse, pas encore les Jeux
OK.
olympiques, j'espère un jour
Eh oui.
d'avoir la chance d'y aller. Et puis, il y a les tournois de circuit qui sont il y a des tournois qui sont vraiment haut niveau, je pense à Danemark, All England, Indonésie, Malaisie, les classiques des tournois de badminton. Donc j'ai eu la chance d'être dans beaucoup de cette compétition et tous les fois c'est une histoire différente, c'est un plaisir différent, c'est vraiment une expérience toujours magique
Ah ouais.
à la fin on a la chance d'être à côté du niveau du jeu le plus haut du monde, et comme les arbitres aiment dire, on regarde ça de la place de la meilleure place.
Eh oui.
Non? On regarde le jeu de la meilleure place, c'est la place de l'arbitre.
Ouais. Quel est ton meilleur souvenir d'arbitrage?
Bah, il y en a plusieurs, je pourrais parler pour une demi-heure avec ça. Il y a beaucoup de matchs que je me souviens avec beaucoup de plaisir. Et je fais des matchs qui sont restés dans ma mémoire parce que c'était des matchs clés pour des raisons différentes. Il y a bien sûr des matchs qui sont des matchs clés pour ma carrière, à la fin d'un tournoi où j'étais sous examen pour passer de niveau, par exemple, ou un match que j'ai particulièrement bien fait, ou un match très bien pour l'ambiance, par exemple. Je rappelle 2011 Open de Vietnam, j'ai arbitré la finale du simple messier avec Nguyen Thiện My,
Ouais.
un joueur qui maintenant s'est retiré du Vietnam, c'était la star là, et en face des 4000 spectateurs qui étaient complètement fous, une ambiance complètement folle, et complètement fou de badminton, et pour moi c'était un honneur d'être choisi pour arbitrer cette finale. Donc l'ambiance était particulièrement chaleureuse. Et plus récemment, par exemple, Open de Malaisie 2018, j'ai arbitré la dernière finale gagnée de Lee Chong-wei dans sa carrière.
Okay.
Il a terminé comme dernier titre l'Open de Malaisie. Et c'était contre Momota Kento. C'était vraiment une belle finale. Et cette finale est terminée avec une correction faite par le IRS, par le Hokkaï, d'une ligne qui était jugée dedans et puis il était corrigé dehors, qui a donné le dernier point à Lee Chong-wei. Donc c'était en effet une tension, un petit thrilling à la fin, et c'était vraiment bien parce que en Malaisie, c'est bien sûr. Lee Chong-wei, c'est une légende. Donc, en Malaisie, les spectateurs, vraiment. Et en anglais, j'aime beaucoup l'expression en anglais, The crowd goes wild. Et j'aime beaucoup, mais c'est vraiment ce que. Et l'année passée, par exemple, dans les derniers, l'Open de Danemark, par exemple, j'ai un très beau souvenir parce que j'ai arbitré le tout premier match du tournoi. Normalement, les arbitres, ils travaillent pour avoir la possibilité d'arbitrer une finale de un tournoi. Et moi, j'ai eu le plaisir d'arbitrer le premier match du tournoi qui signifiait le premier match du retour du badminton haut niveau après l'interruption de la pandémie. Et donc, j'étais vraiment très content. Et après le match, c'est OK. I had my day, this tournament. J'étais vraiment très content. Et dans le même tournoi, j'ai aussi arbitré le dernier match de Jan Ø-Jørgensen avant de se retirer. Parce qu'il avait déjà déclaré dans le tournoi que c'était son dernier tournoi. Un jour vraiment très professionnel et très, très, très sympa aussi, et très, très vraiment à l'aise avec aussi les officiers techniques, et qui a fait une petite histoire parce qu'il a toujours un style un peu spectaculaire du jeu. Et donc, toute la communauté du badminton danois était à tes côtés de ce match-là, de cette partie-là. Et à la fin, il avait beaucoup d'émotions parce qu'il s'est arrêté hein, sur le terrain parce qu'il était devenu beaucoup ému. Je ne sais pas si tu as eu la possibilité de regarder ce match-là. Donc, on s'est interrompu pour 1 minute parce qu'il fallait pour lui récupérer un peu avant de jouer les derniers 2 points parce qu'il avait compris que c'était la fin du match et c'était contre un autre Danois aussi, donc un copain de national avec Rasmus Genk. C'était un match vraiment émotionnel dans ce cas. Et là, c'était vraiment un honneur d'être partie
Et
de cette compétition.
c'était quel tournoi?
C'était l'Open de Danemark, Denmark Open 2020,
Ok. Moi,
le dernier. Oui.
ouais, je
Donc,
vais
c'était
regarder.
quart de finale. Ouais. Et
Ouais.
c'est le dernier match de la carrière de Yannick. Il a terminé dans son pays, sa
Ok.
carrière.
Est-ce qu'il a
Mais
gagné?
il y a des autres, voilà. Non, il a perdu, c'est pour ça que c'était le dernier match. Mais à la fin, quand il a compris que c'était,
Je...
voilà, les derniers points, les derniers échanges, alors on peut arrêter parce qu'il avait besoin d'arrêter. Il a
Ah,
terminé,
l'émotion.
c'était dur pour lui terminer la partie aussi, donc mais je peux comprendre.
Ok. Et est-ce que tu as un mauvais souvenir? Parce que là, tu m'as parlé, tu as beaucoup de bons souvenirs, puis
Bah oui.
mais un mauvais
Bah
souvenir,
alors,
un
moi,
match.
un match qui n'était pas. Bah, bien sûr, il y a eu des matchs qui, un mauvais match, avec des erreurs, parce que tout le monde fait des erreurs. Moi, je suis un qui dit OK, ce match, il m'a enseigné beaucoup parce qu'on pouvait faire mieux ça, ça et ça. Donc, les matchs où tu as eu des difficultés sont des matchs qui vont vraiment t'enseigner beaucoup dans ta carrière. Ce sont des matchs clés aussi. Donc, quand je regarde des arbitres qui sont déçus parce qu'ils n'ont pas bien fait dans un match, si quelque chose de particulier est arrivé, il faut toujours prendre ça et mettre l'ordinateur que tu as dans ta tête pour s'améliorer pour la prochaine fois. Il n'y aura jamais un arbitre qui fait toujours parfait et qui arrive au top de sa carrière sans avoir fait des
D'erreur.
erreurs. Parce que ce sont vraiment ces matchs qui vont donner un clic pour faire mieux la prochaine fois. Donc, bien sûr, j'ai eu des matchs comme ça. Dans les premiers ans, j'étais un peu à oublier parce que, voilà, à la fin, tu ne veux pas souvenir ça. Par exemple, je peux te dire, il y a quelques jours, même là, à l'Open de Thaïlande, j'ai mal jugé une faute au filet. Il y avait des protestes sur le terrain. Et puis, on a regardé le vidéo, il y avait une faute que je n'avais pas appelée parce que j'étais un peu, voilà, il y avait le volant et la raquette qui avait touché aussi le filet. J'ai vu seulement le volant toucher le filet. Mais ça peut arriver, bien sûr. Donc, statistiquement, c'est impossible qu'il n'y arrive pas. Mais comme je te disais, c'est vraiment, il faut prendre la partie positive d'un match qui est pas parfait ou qui va mal, ou même que tu fais des erreurs sérieuses. Il faut toujours prendre sauf que tu fais un désastre, ben, voilà. Ça
Ouais.
peut. Et il y a aussi des jours pour des raisons différentes, tu peux être un peu plus nerveux, par exemple, pour des problèmes, des autres trucs de ta vie, par exemple. Et donc, ça peut arriver. Mais le conseil que je donne dans les tournois, c'est d'aller d'avoir, par exemple, un sommeil régulier pendant le tournoi pour être frais au matin, pour être prêt pour toute la journée d'arbitrage, surtout dans les longues journées qui sont les premières journées d'un tournoi. On travaille des 8 du matin jusqu'au soir. Et c'est très important d'avoir, ne faire pas la fête parce qu'on n'est pas là pour faire le parti. Mais aussi, on a des moments de relax, on a des moments de convivialité. Mais voilà, il faut toujours être préparé pour le.
C'est un travail, c'est un travail.
Oui, c'est un travail, oui, voilà. C'est un
Ouais,
travail. C'est un grand, c'est un travail amusant. C'est un travail qui peut être aussi avec beaucoup de plaisir, mais c'est toujours un travail. Tu peux prendre comme un travail, mais tu peux pas prendre avec un hobby, par exemple. Mais dans tous les cas, il faut toujours se souvenir que tu es là pour tu as un rôle. Il y a des acteurs qui sont les joueurs, qui ont travaillé très dur pour être là et ils deservent, pardon, c'est l'anglicisation de, ils méritent
c'est ça.
un arbitre qui est sur le point.
Ouais, ils veulent pas perdre un match à cause de l'arbitre.
Ben voilà.
C'est ça. Ok.
Heureusement pas.
Ouais. Quel a été ton plus gros test d'arbitrage? C'est peut-être une compétition sur laquelle il y avait du bruit, où il y avait les
Ah
télévisions qui
oui.
te regardent. C'est quoi
Ouais,
ton
il y
plus
en
gros
a.
test?
Alors, dans le monde d'arbitrage, le premier exemple dans ce cas, c'est toujours l'Open d'Indonésie. Quand on pense dans le tournoi classique où il y a beaucoup de pression aussi par les spectateurs, par le public, parce que le public indonésien, c'est vraiment très passionnant, c'est très passionné pour le badminton. Ben, en général, dans tous les pays où le badminton c'est une culture, le public c'est un public compétent. C'est un public qui comprend le badminton, qui comprend le jeu et comme le joueur, ils attendent un niveau de joueur et aussi par réflexe d'arbitrage qui soit de haut niveau. Donc là, tous les arbitres qui vont arbitrer pour la première fois dans ce tournoi comme l'Open d'Indonésie, l'Open de Malaisie par exemple, ou avec un grand arena, un grand stade avec 100 000, 6 000, 10 000 par exemple, plus de 10 000 personnes à l'Open de Malaisie. Il y avait 2012, je rappelle, c'était la folie. Et puis il y a aussi les fans hardcore avec tous les vêtements. Les drapeaux malaisiens, les drapeaux indonésiens. Et en Indonésie, c'est très intéressant parce qu'ils font les compétitions de costumes des supporters des différentes écoles de badminton ou des différents clubs. Et donc, ils vont là avec les tambours, avec le bruit, les instruments, non? Et tout ça, c'est constamment pendant toute la journée. Donc, tu comprends que c'est un bruit constant et boum, 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 boum. Constamment, et puis avec les points, quand ils gagnent, ils montent aussi encore. Donc, je comprends que tous les arbitres, même moi, quand j'ai arbitré pour la première fois, là, j'ai dit, c'est pas facile. Et aussi, il y a une autre difficulté, que c'est une difficulté technique, parce qu'on peut presque rien entendre sur le terrain. Et pour un arbitre, il faut comprendre. S'il y a une faute appelée par exemple le juge de service, s'il y a une touche du volant sur la raquette, donc tu n'as pas le bruit, tu n'as pas la voix qui peut t'écouter parce que vraiment on ne peut rien écouter. C'est constamment être concentré sur ce que tu vois plus que ce que tu écoutes, non? Aussi. Et Istora Senayan, c'est le nom du stade de Jakarta, c'est vraiment très connu pour ça. Et maintenant, et aussi les spectateurs sont très très à côté du terrain. Et quand les fans qui sont les plus chaleureux, ils baissent au fond de la tribune pour donner la main aux joueurs quand ils passent. Ils vont les prendre, ils vont les rattraper. Donc c'est vraiment une très grande ambiance. La Chine aussi, il y a des stades aussi très grands. Et moi, j'espère que la Chine pourra revoir très tôt le badminton au niveau, parce que, par exemple, Wuhan, pour faire un exemple qui a une relation avec la pandémie, Wuhan a une des étapes qui sont dédiées au badminton, entre les autres sports qui sont les plus grands. Donc, l'ambiance chinoise aussi, c'est vraiment numéreux, c'est vraiment une grande ambiance. Et tout ça, c'est une difficulté un peu donc, pour l'arbitrage. Mais c'est aussi de l'autre côté, c'est excitant, c'est un défi, c'est un plaisir d'être là, parce que c'est une ambiance il te donne un sprint, il te donne il te donne un voie d'être vraiment dans. C'est vraiment un événement particulier
Oh ouais, tu es dans la Mecque du badminton.
Exactement, ouais, voilà, exactement.
Ah ouais,
Et
ouais. Ok. Alors là, tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais quelle est la plus belle partie que tu as eu la chance d'arbitrer? Donc, j'imagine, c'est Momota contre Li Chonghui.
oui, j'ai fait cet exemple-là, et aussi ça peut être. Je rappelle de très beaux matchs de la Thomas Super Cup, des matchs décisifs pour passer dans les quarts de finale, dans les demi-finales, même des matchs de demi-finale, vraiment très 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 tendus aussi. Et c'est un match vraiment tendu, ça devient extrêmement tendu, ça devient spectaculaire aussi dans son façon technique, même s'il n'y a pas des s'il n'y a pas des c'est pas un jeu très spectaculaire, mais l'importance du résultat rend tout le jeu très tendu et très en anglais on dit nail biting, non? C'est vraiment du thrilling. Et
Ouais.
ça monte aussi pour les arbitres. C'est toujours un thrilling, c'est un envoi d'arbitrer parce que tu rends compte que c'est vraiment très important.
J'imagine que ces matchs-là, très importants, on doit beaucoup les rencontrer dans les compétitions par équipe.
Oui, aussi par les compétitions par équipe, et bien sûr, pas seulement dans les équipes. La différence, les compétitions par équipe, par exemple, c'est que dans les grandes compétitions, il y a aussi l'équipe qui est à côté du terrain. Et donc, ils font des supporters en plus aux joueurs. Et c'est vraiment génial parce que c'est comme un double niveau de spectateurs. Et aussi, les spectateurs, ils regardent le jeu, ils regardent l'équipe qui est à côté, et c'est une participation complètement différente. Les tournois individuels aussi, ça dépend aussi des stars. Ça dépend s'il y a des grands joueurs, si le match est intéressant, si le niveau des top seeded, par exemple. Ça dépend des différents aspects. Mais quand il y a une compétition par équipe, c'est vraiment très, comment dire, c'est l'importance pour même stratégique, même politique dans le badminton aussi, hein. Ça rend crucial, ça rend des compétitions très spéciales.
Ouais, non, c'est clair. Alors, quelle partie tu n'as pas arbitrée encore, mais que tu rêverais d'arbitrer?
Bah, la réponse à cette question, je pense que tu vas avoir la même réponse par tous les arbitres, ou presque. Et normalement, c'est la première que je dis, c'est une finale aux Jeux Olympiques, ou
Oh.
en général d'arbitrer aux Jeux Olympiques, pour des raisons qui sont logiques. Mais aussi, il y a des matchs qui sont toujours. Tu sais déjà que c'est qu'ils vont être importants. Finale du championnat du monde, par exemple, ou finale du Sudirman Cup. Et donc, deux parties entre la finale du Sudirman Cup ou Thomas Super Cup, j'ai déjà fait. Mais Jeux Olympiques, si un jour je vais avoir la chance, par exemple, je serai très content. En général, on a le plaisir d'arbitrer tous les matchs qui sont d'une importance qui peut être des différents niveaux aussi. Parce que, par exemple, un match qui, je rappelle avec plaisir, c'est un match que j'ai arbitré en 2019 aux Jeux européens. Et c'était un match très important parce que c'était un quart de finale. Donc, le gagnant gagnait une médaille. Parce que le demi-finaliste, il gagne le bronze. Et pour la première fois, c'était un match très important pour Israël. Les joueurs israéliens, ils avaient gagné. Il y avait aussi une délégation totale du comité olympique israélien. Donc, chaque niveau de tournoi, chaque niveau a son importance. Même si tu vas au championnat du monde junior, dans un petit pays qui participe pour la première fois, il arrive à gagner seulement un match. Pour eux, 7 matchs, c'est important comme gagner le championnat du monde. Et eux aussi, ça peut être, voilà, il faut toujours être, donner la même importance dans tous les matchs, dans toutes les parties qu'on va arbitrer. Parce que ça peut être, c'est très important, même, surtout pour les joueurs eux-mêmes, de gagner. Ils ont travaillé, ils sont là, ils sont entraînés beaucoup pour être là. Donc, c'est pour eux, c'est toujours la même. Bien sûr, quand tu vas dans une finale, c'est le titre, c'est l'importance du titre
Non,
qu'ils
tout
vont
à fait.
gagner, bien sûr.
Est-ce que tu as une anecdote drôle ou pas? T'es pas obligé de répondre à ça, c'est pas une obligation.
Non, il y a aucun problème. Il y a beaucoup de petits trucs dans les matchs qui arrivent, qui sont très drôles, très bizarres aussi. Ça peut être de petites conversations avec les joueurs, par exemple. Je rappelle un match où ils ont commencé avec une conversation entre les deux côtés, entre blagues et provocations un peu comme ça, mais c'était vraiment très 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 amusant, très très drôle à écouter. Donc un sourire, il t'échappe, non? Et puis avec les joueurs, on se connaît un peu plus, donc on sait que on peut dire un mot. Aussi, c'est vraiment bien pour relâcher un peu la tension dans un match qui peut être tendu, non? Et il y a des jours, par exemple, dans un match, il y avait un challenge sur une ligne de l'autre côté, ici à l'intérieur, et le joueur, il est venu se mâcher. Qu'est-ce que tu en penses maintenant? J'ai bien fait à appeler le challenge, comme ça. Donc, c'est tout ce petit truc-là. Puis, il y a de petites choses de règlement. Par exemple, en Indonésie, une fois, il y avait une double féminin et une des joueuses, pour récupérer la position près du filet, pour regagner le centre du terrain, il a planté son pied et en même temps, il a attrapé pour un moment le poteau. Et il est revenu. Et puis, donc, j'ai appelé le faute parce que tu ne peux pas toucher le poteau, non? Et puis, il m'a regardé. Oh, non. Non, c'est tout petit truc. Il ne s'avait pas rendu compte qu'elle
Ben
avait fait. Donc, c'était. Ah bah, et puis, il y a vraiment il y a beaucoup de petites choses qui arrivent, même entre les arbitres, de petites blagues qu'on fait. Par exemple, en championnat du monde junior, Bilbao 2016, dans un après-midi, pour des raisons que je ne sais pas, ils ont terminé les juges des lignes. Il y avait si peu de juges des lignes, il y avait 10 terrains, donc c'est un grand tournoi, donc on joue beaucoup. Et il y avait si peu de juges des lignes qui, des arbitres, ils ont été demandés de faire non pas les juges des lignes, mais de faire la ligne et en même temps d'être sur le service. Okay, donc service et la ligne aussi en même temps. Et avec mes collègues qui sont pas habitués à être sous la ligne, surtout après une semaine de compétition, et on faisait des blagues parce que le volant tombe sur sa ligne et moi, comme arbitre, je disais, au juge arbitre, s'il vous plaît, signalez la ligne. Et donc, là, ah oui, the in, out, non? Donc, on essaie toujours de trouver le côté plus intéressant aussi, curieux, pour arbitrer entre eux. Puis, il y a beaucoup d'anecdotes qu'on continue à s'échanger. Ah, tu te rappelles quand on faisait comme ça, ce jour, il a dit comme ça. J'ai aussi beaucoup d'anecdotes des autres arbitres qui me disent des conversations avec les joueurs. Oui, et ça c'est le côté intéressant. Aux jeunes arbitres, on dit toujours, tu vois, voilà, on va être respectueux de notre rôle, on va travailler, on va avoir des matchs importants, des matchs qui sont aussi en peau dure maintenant, mais il y aura toujours un côté de socialité, de convivialité et très amusant et tu vas avoir vraiment des amis pendant ta progression comme arbitre au niveau, des amis par tout le monde et tu dois toujours faire confiance bon, ces amis-là. Donc,
Ouais.
et ça, c'est un des
Ouais,
motifs très valides pour devenir arbitre.
c'est la famille des arbitres.
Oui. Oui, c'est comme une famille, c'est comme une famille. On
Ouais.
s'écoute souvent. Moi j'ai des collègues par tout le monde que j'écoute souvent, des collègues qui ont fait my mentor en anglais, je sais pas le mot en français de ça, non? Comme de petits instructeurs qui suivaient ma carrière quand j'ai progressé. Je reste toujours en contact parce que un autre truc qui j'aime rappeler à des arbitres quand je fais des courses, quand je fais des workshops, c'est que il y a toujours à apprendre entre les arbitres. Donc d'être pas d'avoir pas peur de demander à des amis ou des collègues qu'on peut faire confiance, de demander des opinions sur toi et de te dire voilà, ça t'as bien fait, ça tu pourrais faire mieux. Parce que la confrontation, la conversation et le rapport entre les arbitres doit être toujours constructif. Donc, tu peux pas penser d'être arrivé dans un niveau et j'ai plus besoin de conseils, j'ai plus besoin de. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça parce que les années passent partout, les situations sont complètement différentes. Et nous, si tu penses que tu arrives au même niveau tout le temps, c'est pas comme ça. Donc, les conditions pour changer.
Ouais, tout à fait. Tout à fait. Selon toi, quelle est la nation ou le joueur, mais c'est principalement la nation la plus respectueuse des officiels?
Normalement, on peut penser que pour une raison culturelle, les joueurs asiatiques, ils ont une façon de se rapprocher aux officiels techniques avec un code visuel et une façon de communiquer et qui est un peu plus, je dis pas respectueuse, mais des filtres qu'on peut penser que c'est qui vont mettre une distance, donc un bon respect entre le joueur et les arbitres. Mais moi, je pense que c'est seulement une question culturelle. De l'autre côté, par exemple, les joueurs européens, même pour une façon culturelle, ils sont plus habitués avec un rapport plus direct avec les arbitres. Donc, s'il y a quelque chose qu'il veut communiquer, il tend à être à pas refuser la conversation, pas refuser le dialogue, non? Même s'il y a quelque chose qui n'aime pas sur le terrain, une décision qui est pas qui sont pas d'accord, par exemple. Normalement, les joueurs européens, ils ont une façon plus directe. Moi, je pense que c'est vraiment seulement une question culturelle. C'est un code qui est complètement différent. Mais même un joueur asiatique ou un joueur d'une différente culture, peut communiquer qu'il n'est pas d'accord avec toi, mais il peut communiquer d'une façon différente, avec un regard différent. Mais ça ne veut dire pas qu'ils vont être plus d'accord avec toi par rapport aux des autres joueurs. Et donc, on dit que, par exemple, chez les arbitres mondiaux, les arbitres asiatiques, ils sont toujours un peu plus. Ils pensent que les joueurs européens sont un peu plus durs à manager, à gérer. Et peut-être que c'est comme ça, je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est plus ou moins la même chose. Et peut-être qu'on est plus habitué comme Européen
Ah oui.
à voir les joueurs européens dans les championnats d'Europe, dans les compétitions européennes, parce qu'on a beaucoup de tournois. En Europe, il y a beaucoup de pays, donc chaque pays a plus ou moins un tournoi international. Donc les circuits européens, c'est vraiment facile à se. Pas maintenant, malheureusement, mais normalement, c'est vraiment facile à travailler entre les pays. Donc, on est un peu plus habitué avec les joueurs européens. Mais je ne pense pas qu'il y a un pays spécifique qui est plus difficile. C'est vrai, peut-être, qu'il y a des pays qui ont une meilleure connaissance des mécanismes de l'arbitrage. Donc, ils savent mieux. Ça, on le voit, je ne veux pas faire des noms. Bah, il y a des joueurs que tu vois qui ont une connaissance des règlements, une connaissance des mécanismes d'arbitrage, et qu'il faut qu'au bon moment, ils savent quoi dire aux arbitres. Et là, il faut avoir la bonne réponse. Là, c'est le truc, c'est qu'il faut avoir toujours une bonne réponse, il faut avoir toujours, ou tout simplement, expliquer, spécifier quelle est la raison de ta décision,
Ah
tout simplement. Donc ça
ouais.
c'est la. Et si, et en plus, comme je suis aussi très passionné par la philosophie de l'arbitrage, ça, cette communication, c'est l'un des aspects les plus importants de l'arbitrage. C'est un truc qui donne vraiment la qualité de l'arbitrage si tu arrives à le gérer dans la meilleure façon, de la meilleure façon.
Ouais. Ok. Quand tu montes sur la chaise, pour toi, qu'est-ce qui est le plus difficile dans la gestion d'un match? Qu'est-ce que toi tu as le plus de difficultés ou qu'est-ce qui est difficile pour toi, le plus difficile?
Alors, dans un match, chaque match est différent. Il y a des matchs. Alors, on parle en général. Par exemple, le badminton, je trouve que c'est un sport où tu peux avoir 3-4 matchs très faciles, parce qu'un côté c'est plus fort que l'autre, parce que le match c'est pas tendu, le match c'est déjà complète sportivité, il n'y a pas de situation particulière, des problèmes particuliers. Et puis tu trouves un match que c'est vraiment très difficile, non? Et parfois, tu trouves ces matchs difficiles et c'est inexpecté, c'est inattendu. Tu pensais que c'était un match facile et tu trouves que dans le terrain que c'est plus difficile que tu pensais. Et même dans le même match, il y a des situations que tu vois parce que, par exemple, il y a quelque chose qui arrive, un point tendu, un point contesté, un point qui était décisif, qui n'est pas allé dans la meilleure façon. Et ça change, par exemple, la dynamique dans un match. Le match, ça peut devenir tendu. Il faut comprendre tout ça, non? Donc, en parlant des aspects techniques, la compréhension d'un match, c'est très important. Et surtout dans les derniers 10-15 ans, on donne beaucoup plus d'importance au delay. Comme on dit delay en français, retard dans le jeu,
Au retard, oui, au
c'est
retard.
ça? Le retard dans le jeu. Parce que maintenant, on donne plus d'importance pour faire que les matchs ne soient pas décalés, soient pas, ils sont toujours faciles à suivre. Et donc, le respect des temps du jeu, c'est toujours une chose qu'il faut tenir en compte. Et moi, je trouve que l'arbitre, c'est comme il va enregistrer dans sa tête tout ce qu'il passe pendant un match, non? Et le retard du jeu, c'est une chose que ça peut être un peu plus dur à gérer. Maintenant aussi, il y a beaucoup de joueurs qui jouent beaucoup plus qu'avant. Service et réception, on dit comme ça. Service et réception. Et donc, il y a de petits trucs entre réception. Je suis prêt, il n'est pas prêt. Il y a un service qui est... voilà, il se bouge, il ne se bouge pas, faute de service. Le jeu, il y a des matchs surtout dans le double qui sont vraiment tactiquement beaucoup joués sur le service et réception. Et ça, c'est un autre aspect qui est partagé entre l'arbitre, le juge de service. Et chaque fois, c'est très rapide. Il faut enregistrer ces tout petits instants et les garder dans la tête pendant tout le match pour regarder si le comportement, la façon que les joueurs ils jouent cet aspect crucial du match est respectueux des règlements ou ils vont être à signaler ou à sanctionner. Et donc, c'est cet aspect technique qui sont un peu plus...
Ouais.
Voilà. Et pour le reste, il faut faire beaucoup d'attention à tous les autres aspects. Mais ces deux, trois choses que je viens de te dire, c'est des choses qui changent beaucoup d'un match à l'autre. Donc, ça peut être un peu plus dur à lire aussi. La compréhension du match, c'est la lecture, la compréhension du jeu. C'est un aspect de l'arbitrage qui c'est dans tout le sport. Dans les sports les plus différents, ils ont tous un aspect qui est commun à tout le sport, qui c'est la lecture du jeu, la capacité du juge, de l'arbitre, des officiers techniques à lire le jeu et de donner les bonnes réponses et l'interprétation de ce qui passe devant tes yeux.
Ouais, non, très intéressant, très intéressant. Ouais. Ouais. Comment sont tes relations avec les arbitres en chef et les autres officiels? Est-ce que tu penses que c'est important d'avoir une bonne relation avec tous les officiels ou est-ce que ça peut t'apporter un stress? Par exemple, je veux juste donner un exemple. Je veux juste donner un exemple avant. Tu sais, quand tu sais avec qui tu vas travailler, peut-être c'est des officiels avec qui tu as eu des tensions ou un arbitre en chef avec lequel une compétition précédente, il y a eu des choses un petit peu, des frictions. Est-ce que ça, c'est source de stress ou...
Je peux comprendre que ça peut être une source de stress potentiel, au moins potentiel. Il faut dire que, par exemple, ça arrive pas tous les fois qu'on sait quel est le groupe d'arbitres avant des compétitions. Il y a des tournois qui te communiquent ça avant. Il y a des tournois qui, même moi aussi, j'aime pour des tournois connaître les autres collègues, les autres amis, une fois, ou même la plupart, une fois que je suis déjà arrivé là. Parce que pour moi, c'est un plaisir que découvrir aussi les amis de revoir. Et les juges arbitres, on le sait beaucoup en avance, parce qu'ils sont nommés des mois en avance, ou sinon, au niveau BWF, ils peuvent nommer un an en avance, pour pousser le début. Et personnellement, je n'ai pas des difficultés particulières avec des collègues, ou même aussi des juges arbitres. C'est vrai, par exemple, que surtout à côté des juges arbitres, il peut y avoir une façon différente de encadrer le tournoi. Encadrer le tournoi, c'est une définition que ça veut dire tout ou rien, mais ça peut être la tournation des arbitres, ça peut être des trucs qui vont te demander dans les briefings, des aspects où faire particulier attention, plus que des règlements, de la façon de la présentation de tournoi, comment on marche dans le terrain, où il faut être si on ne travaille pas, par exemple, les parcours ou des aspects différents. Ça, c'est vrai, mais ça, c'est partie des possibilités que les juges arbitres ont, les officiers techniques vont avoir par rapport au règlement qu'il faut respecter. Et ma pensée sur les juges arbitres, c'est que j'essaie de m'adapter à les différentes situations par rapport au tournoi, par rapport aux juges arbitres. Et pour moi, c'est un autre défi, c'est un autre jeu que je fais avec moi-même dans un tournoi pour essayer de donner le mieux. C'est pour ça que, par exemple, dans les briefings, j'écris beaucoup. C'est un des qui écrit beaucoup par rapport aux autres parce que j'aime noter tous les petits trucs qui je trouve vraiment bon de regarder ces petites notes avant de la journée ou deux, trois fois pendant le tournoi. Et parce que vraiment, t'as des trucs qui sont un peu différents. Donc, les arbitres, par exemple, ça peut arriver qu'avec quelqu'un, il y a des situations sur le terrain que tu ne trouves pas bien avec ton collègue juge arbitre, pardon, ton collègue juge de service, ouais, ou ton collègue arbitre si tu es juge de service, non? Dans l'économie d'un tournoi, on essaie de travailler avec tout le monde. Et l'indication que les juges arbitres ont, c'est de faire une tournation entre tous les collègues. Donc, ouais, à la fin, il n'y a pas de problème particulier avec les arbitres, avec les collègues. Si j'arrive, ça, c'est un truc que je fais, c'est si j'ai un match très important, par exemple une finale, avec quelqu'un que je ne suis pas beaucoup, beaucoup, beaucoup en confiance, j'essaie de lui parler avant le match et de dire, de communiquer que s'il y a quelque chose de particulier qui arrive sur le terrain, de pas oublier de communiquer, pas oublier de donner par exemple de petites indications ou de aider en cas de situation particulière, même avec le regard, que c'est très important, le contact des yeux, les collègues pour donner des indications qui sont très très importantes. Donc, il y a des autres collègues que j'ai pas besoin de dire parce que on travaille déjà ensemble, donc on sait comment ça marche.
Quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'arbitrage, je parle pas de l'arbitrage international là, tu sais, selon toi, c'est quoi les principales qualités ou pour commencer à arbitrer au badminton, selon toi?
Il faut être intéressé au sport en général, bien sûr. Et pour moi, une des qualités principales au début, c'est la curiosité. Donc, être curieux sur le sport, être un peu patient, par exemple, parce qu'au début de sa carrière, tu vas regarder les matchs qui sont vraiment au niveau, moi je commençais avec les gamins et voilà, le volant qui fait comme ça, non? Donc, je comprends qu'au début, c'est pas des grands matchs à voir, non? Au début, peut-être qu'ils vont penser, qu'est-ce que c'est ce truc-là, qu'est-ce que c'est ce sport particulier? Et donc, il faut avoir un petit peu de patience et d'être concentré sur avoir un target, avoir un objectif au début qui peut être niveau national au début, et puis continuer à s'évaluer, à dire est-ce que j'aime cette rôle, est-ce que j'aime ce travail, ça me plaît ou ça me plaît pas, non? Alors, la compréhension de ça, c'est qu'on fait comme tuteur, c'est qu'on fait comme teacher des jeux arbitres, c'est de comprendre aussi s'ils sont vraiment intéressés, s'ils sont là, s'ils ont le petit feu qui fait que tu as envie de progresser. Il y a d'autres qui le font comme un défi avec leur-même pour réussir à avoir un petit succès ou quelque chose dans un aspect de leur vie qui peut être l'arbitrage de badminton. Ça, c'est positif, mais il ne faut pas que ce soit la seule raison qui te permette pour ça. Il faut être vraiment intéressé à le sport et à la. Le plaisir de regarder le sport aussi, en général, le plaisir d'être en première ligne, non, avec le sport. Et puis, encore mieux, d'être le moyen, comme j'ai dit, le moyen dans lequel le sport peut s'exprimer. Donc, comme l'arbitre, c'est un moyen où le jeu passe pour être dans les règlements pour être délivrés dans la façon meilleure des joueurs. Pour eux, comprenez, parce que ce sont les premiers acteurs, sont les joueurs. Le jeu, game is for the players. Ça, c'est un mantra qu'on répète aux arbitres. Donc, pas trop protagoniste comme arbitre, mais les vrais protagonistes sont les joueurs. Et si tu aimes tout ça, si tu aimes tout ça et que tu veux progresser, et tu as cette envie de progresser, alors cet aspect que je viens de te dire, c'est déjà une bonne encadrement c'est bon pour un potentiel grand arbitre, un potentiel arbitre qui peut s'améliorer. Puis il y a aussi le plaisir à côté, non? Voyager, voir des gens différents, nouvelles expériences, non? Et ça, on le met ensemble, mais. Très intéressant comme le badminton, ça c'est la première chose qu'il faut voir. Et d'être en première ligne dans un sport très très intéressant comme le badminton, ça c'est la première chose qu'il faut voir.
Là, tu parlais de, bah oui, faut aimer voyager. Mais en tant qu'arbitre de partie, quand tu es invité, ou est-ce que c'est toi qui payes tes billets d'avion? Ça se passe comment?
Bah oui, normalement ça se passe que au début ça dépend des fédérations. Dans la fédération, en parlant en général, il peut t'aider avec en payant tes voyages ou voyager à l'extérieur. Les voyages, ils sont presque jamais, sauf que pour des doublettes, sont jamais payés pour par les organisateurs. Donc c'est la personne qui voyage comme arbitre normalement à payer ou sa fédération. Donc ça dépend de la du rapport entre l'arbitre et sa fédération. Quand on devient arbitre BWF, donc il y a un minimum de tournois qu'il faut faire. Au début, ça peut être un, deux par an. Et quand tu es, comment dire, appointed. Quand tu es nommé par BWF directement, c'est BWF qui va s'occuper de ton voyage aussi. Il y a aussi des arbitres qui paient de sa poche au début, parce qu'ils veulent commencer à voyager. La fédération, il y a des fédérations qui n'ont pas gros moyens pour envoyer l'arbitre, donc ils vont payer de leur poche. Ça peut arriver aussi.
Qu'est-ce que tu penses du nouveau règlement sur le service à 1,15 m?
Ah bah pour les jeux de service, c'est le paradis.
C'est
Non,
parfait.
je plaisante, c'est parfait. Non, j'exagère un peu, mais c'est vrai que ça a donné un grand aide aux jeux de service pour une raison très simple. Avant, il y avait la ligne de waste, comme on dit waste en français, la ligne
C'est soit
waste,
la taille.
la taille, voilà. Donc, avant, il y avait la ligne de la taille à regarder. Mais la ligne de la taille, c'est une ligne imaginaire. Donc, il fallait l'imaginer toutes les fois. Maintenant, avec le truc de 1,15 m, il y a une ligne en face de toi, donc c'est plus facile à voir. Les autres fautes sont plus ou moins restées les mêmes. Donc, le travail pour le juge de service est beaucoup plus facile maintenant. Et par rapport au jeu, je pense que les joueurs, maintenant, ils sont complètement habitués à cette nouvelle règle. Au début, il y avait un peu dur pour tout le monde comprendre. Je rappelle que j'étais dans le premier, tout premier tournoi de World Tour où on a commencé à utiliser le 115 et c'était l'Open d'Allemagne 2018, je crois, 18-17. Et le tout premier match que j'ai arbitré, un des deux joueurs, quand ils ont commencé à appeler les fautes, il a commencé à dire, ça, c'est la règle la plus stupide que j'ai jamais vue. Et donc, la réaction par quelqu'un, c'était pas parfaite, mais je pense que maintenant, ils sont plus habitués, même avec les arbitres. Moi, je trouve personnellement que ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup à juger les services.
Ok, donc tu es arbitre au badminton et au rugby. Pourquoi
Oui,
le
aussi.
rugby? Alors,
J'ai
bon,
toujours habité au rugby.
pourquoi le rugby? Ça, tu nous as expliqué un petit peu avant.
Ouais.
Est-ce que tu es un ancien joueur de rugby? Non, hein?
Ouais, comme le badminton, j'ai
Comme le
jamais été
badminton.
un joueur de rugby. Mais j'ai aussi aimé beaucoup le rugby. C'est vraiment un grand sport. C'est un sport de fair play. C'est un sport complet. C'est un sport que tout le monde peut faire. Donc, c'est vraiment une école de vie. Donc, c'est une école de sport, une école de socialité. Et c'est un grand sport. C'est toujours arbitre de rugby, même presque à la fin de ma carrière. J'arbitre aussi en Allemagne. J'ai arbitré 2-3 matchs en Allemagne aussi. J'arbitre l'Italie quand j'étais en Italie. J'espère qu'on va reprendre très tôt aussi le
Ah
rugby
oui.
parce que il nous manque beaucoup. Et je suis les arbitres. Et c'est très bizarre parce que quand je commençais à arbitrer le badminton, les amis du rugby, ils ont dit, mais pourquoi tu fais un sport complètement différent de ça? C'est vraiment bizarre. Et c'est un truc que tout le monde va demander, mais pourquoi ces deux sports complètement différents? Alors, il faut que je raconte l'histoire des contacts que j'ai eus, des sports différents, non? Mais comme je disais en avant, dans un haut niveau, la responsabilité de l'arbitrage dans des sports différents, c'est presque la même. Il faut être concentré, il faut lire les mains, il faut lire le jeu. Et la seule différence, c'est que dans un terrain de rugby, tu bouges, tu cours partout. Et servir seulement de badminton, tu risques de prendre du poids aussi parce que tu bouges pas beaucoup. Heureusement, on va par exemple, là, à Bangkok, on peut faire pas beaucoup de choses. Je te parle de ma chambre d'hôtel, comme tu peux noter maintenant, parce qu'on peut pas faire beaucoup de choses. On peut être là, on peut être dans la salle, arbitrer. Et l'un des deux autres choses qu'on peut faire, c'est faire des meetings près du gymnase et aller dans le gym, qui c'est le même gym des joueurs. Donc, on nous réserve 1 heure au jour pour BWF et pour les arbitres pour aller là-bas. Donc, j'essaie de me tenir en activité aussi parce que c'est un moyen de sortir de l'hôtel, de sortir
Ah
de
ouais.
la bulle où on est. Donc,
Ah ouais. Ok. Est-ce que le fait d'être arbitre au badminton et au rugby, est-ce que, bon, tu dis, il y a des similitudes, mais est-ce que ça t'aide à être meilleur dans l'autre sport? Ce que tu as appris au badminton, est-ce que ça te
alors
sert au rugby?
la chose qui peut aider, c'est la communication, par exemple. C'est une communication qui ça peut être très différente entre les deux sports, plus communicative, plus discursive, un peu plus articulée dans le rugby, plus serré, plus efficace, plus rapide dans le badminton, parce que c'est un sport où il faut respecter le rythme du jeu, empêcher les delays, empêcher les retards, et des choses comme ça. Donc, il faut trouver les mots les plus efficaces pour communiquer les choses. Mais pour moi, des choses des mots, des expressions que j'utilise dans le rugby, je les transporte aussi du badminton dans une façon plus rapide, dans une façon plus sélective de la communication que j'essaie de faire. Je ne vais pas cacher qu'au début, ou même maintenant, parfois j'utilise un peu plus de mots par rapport aux autres arbitres dans le badminton, parce que je prends cette façon du rugby. Donc je suis un peu plus, je peux influencer de la façon d'habiter le rugby dans le badminton si je trouve des joueurs avec lesquels je peux entrer dans une petite, oui, très 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 petite conversation. Mais par exemple, s'il y a un match tendu, il y a un match que le joueur, je comprends qu'il veut pas envie de parler ou il veut pas recevoir le message que j'essaie de lancer, c'est mieux que je reste de ma côté et je vais donner des tout petits mots quand ils vont servir. Par exemple, de toute façon, il y a des joueurs que même dans les intervalles, s'ils sont pas occupés avec les coachs, ils vont te demander une petite chose. Tu peux leur dire on prend un peu plus de temps, ou même communiquer des aspects techniques. Là aussi, c'est aussi un truc qui est avec la culture. Il y a des joueurs qui parlent mieux l'anglais par rapport aux autres. Oui. Donc, il faut toujours tenir... la communication, ça peut être changé aussi par rapport à ça. Il y a des pays ou des cultures qui ne sont pas pratiques avec l'anglais par rapport aux autres. Peut-être des joueurs danois ou allemands qui connaissent l'anglais aussi très bien. Il y a des autres pays qui connaissent moins. Et il faut aussi supporter la communication avec les yeux, avec tes mains. Non, et ça, c'est très important. Donc, pour répondre à ta question, je vais prendre un tout petit truc du rugby et je vais l'utiliser aussi au badminton dans une façon adaptée. Et ça marche parfois. Ça marche très bien.
Parce que effectivement, puis je comprends tes amis qui disent mais deux sports tellement différents, entre un sport de contact assez brutal, quand même, le rugby. J'ai joué 2 ans au rugby, puis étant français, ben j'aime aussi le rugby, mais c'est quand même assez brutal. Par rapport au badminton qui est plus gentleman, on va dire. Mais j'aime le mariage des deux.
C'est un mariage très drôle. Et le rugby, c'est un sport de contact. Et le badminton, c'est un sport de contact. Ça, c'est la différence. Mais il y a beaucoup de similitudes, je trouve, dans la façon d'être sportif, d'être respectueux de l'adversaire, même si le rugby, ça peut sembler brutal. Il y a des gens qui pensent que c'est un sport violent, mais c'est pas comme ça. C'est un sport très respectueux de l'adversaire, surtout parce que c'est un sport de contact. Donc, c'est très important de garder de l'autre côté, de rester dans un côté respectueux après ce contact très direct. Donc, je vais transporter ça dans le badminton. Parce que, par exemple, je trouve que les joueurs de badminton sont vraiment gentils et respectueux entre eux. Mais ça peut arriver que dans un match, il y a des situations très tendues. Parce qu'ils sont tellement concentrés dans l'effort technique, dans la prestation et dans leur stratégie ou dans leur puissance qu'il faut délivrer pour gagner le match, que ça devient vraiment tendu d'une minute à l'autre. Avant le match, c'est des souris et tout ça, et puis ils sont tellement concentrés que ça peut arriver que c'est vraiment très dur à tendu. Et il faut penser à tout ça. Et c'est très pareil au rugby. Il y a des phases de jeu, il y a des périodes entre le match qui sont vraiment, vraiment très tendues, mais à la fin du match, on se serre la main. On espère qu'on reviendrait à se serrer la main très tôt. et c'est tous amis. Hein, mais c'est comme ça.
Donc, ouais.
Il y a beaucoup de similitudes qu'on peut penser entre les deux.
Ouais. Mais alors du coup, donc, t'es arbitre au badminton, t'es arbitre au rugby, t'es en Allemagne, t'es en Italie, t'es à Bangkok, puis je ne te demande pas de me parler de ta vie de famille, mais est-ce que t'arrives à avoir une vie de famille avec tout ça?
Oui, un peu, oui, un peu, oui. C'est pas facile. Et, je te dis, il y a mes copines dans l'histoire, il fallait s'adapter un peu parce que voilà, c'est comme ça. Et donc, j'ai toujours des partenaires très patientes.
Oui, j'imagine.
Parce que moi, je partais. Aussi, ma vie de famille s'est un peu influencée comme ça. Et ça peut être très, 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 très utile. Donc, ça peut être bon que si tu as quelqu'un à côté de toi qui comprend, qui est dans le sport, par exemple, ou qui est passionné aussi avec le sport. Ça peut être un gros aide, non? Ça est arrivé. C'est arrivé aussi. Donc, ça peut être très important. Aussi, le travail, l'autre travail qui est, parce que je suis pas seulement un arbitre de rugby, ou de badminton. Donc, même avec le travail, c'est pas difficile à gérer parce que, voilà. Après, il faut voyager, je reviens et donc
faut prendre des vacances pour pouvoir aller sur les compétitions.
Prendre des vacances, voilà, exactement. Ça, par exemple, c'est une chose c'est très difficile pour des arbitres parce qu'ils n'ont pas la possibilité de prendre des vacances. Et donc, potentiellement, la carrière, ça peut être influencé de ce problème-là. On essaie de trouver des programmes avec les fédérations internationales qui peut rencontrer cette difficulté des arbitres. Par exemple, les arbitres qui commencent leur carrière internationale, on leur demande de faire pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de tournois dans un an. Donc, il y a un numéro minimum de matchs de tournois où aller, mais c'est 1-2 par an, par exemple. Pas plus que ça. Après, si tu veux progresser, le minimum, ça monte un peu. Mais on peut pas demander tout le monde de laisser son boulot ou de utiliser toutes leurs vacances pour le badminton. Ça, on peut pas demander. Aussi, avec la vie de famille.
Donc là, toi maintenant, qui es un des rares arbitres semi-professionnels, qu'est-ce que ça t'a apporté de qu'est-ce que ça t'apporte de plus?
Quand on a commencé à parler aux arbitres semi-professionnels, parce que le projet des arbitres semi-professionnels, ça a commencé, parce que je sais, dans les années 2000 quelque chose, mais puis on était un peu à côté, et nous personnellement avec les autres, on a commencé d'en parler dans une façon plus sérieuse à partir de 2014. En parlant avec les confédérations et les BWF, je pense qu'il a commencé ces trucs. On a fait aussi des études avec les autres arbitres de différents sports. Par exemple, moi, j'ai écouté des arbitres internationaux de tennis, de tennis de table, et qui sont un peu plus des sports pareils par rapport au badminton, même de sa façon d'arbitrage techniquement ou de donc ils ont commencé à développer ce projet, et l'un des avantages qu'on avait envisagé du début, c'est tout simplement que un arbitre semi-professionnel qui a un minimum de tournois à faire comme on a maintenant à faire dans un an et qui voyage dans sa façon plus constante pendant l'année, il a la possibilité d'être constamment sur le point, d'être entraîné, d'être de faire exercice constant sur les matchs. Donc, de garder un niveau d'arbitrage qui peut être plus adapté au haut niveau des compétitions qui ont fait. Il faut pas s'oublier que dans les derniers 10 ans, l'importance des tournois de badminton est montée dans une façon incroyable. Même l'argent qu'un joueur peut gagner, par exemple, il est maintenant, ils peuvent gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent par rapport à il y a 10 ans. Je rappelle une interview de Paul Ericoeur. Paul Ericoeur disait, il faut qu'on donne à chaque joueur la potentialité de devenir millionnaire. Et donc les sponsors, la télé, tout ça. Donc on envisageait la nécessité que d'avoir un groupe d'arbitres qui soit formé pour ou la fédération internationale pour prendre avec toujours une disponibilité minimale pour les mettre sur les grands tournois, les tournois du World Tour. Bien sûr, à côté des autres arbitres. Donc, c'est pas seulement les demi-professionnels qui vont là, mais à côté des autres. Et aussi, les demi-professionnels peuvent donner leur expérience aux autres arbitres qui sont là pour travailler ensemble. Donc, c'est une échelle différente, une exercice différente, c'est un bassin où la Fédération internationale peut prendre les arbitres pour les utiliser dans les grands tournois, dans les tournois importants, et même un moyen pour améliorer les échanges d'informations et la qualité technique entre les officiels techniques de tout le monde. Dans notre contrat, par exemple, on a un minimum de tournois à faire, mais on a aussi 3 semaines dans notre contrat où on fait des séminaires, des workshops, donc on peut faire même des séminaires pour nous, pour des updating, pour des nouveaux règlements, mais aussi on peut être utilisé comme enseignant, comme workshop pour des confédérations, des pays qui vont développer le côté d'arbitrage, donc et même envisager la potentialité des nouveaux arbitres pour monter, pour faire la carrière internationale. Donc c'est une façon différente. C'est pas automatique que les demi-professionnels soient les meilleurs arbitres, parce que c'est pas comme ça. C'est une façon différente d'interpréter la disponibilité d'arbitres et de garder cet arbitre pour les tournois et du World Tour, le World Championship, tout ça. On vient de commencer parce que on a commencé 7 mois en janvier avec ces tournois en Thaïlande parce que on avait déjà il y a un an terminé la sélection, mais bien sûr avec la pandémie on s'est un peu décalé. Et les projets étaient déjà commencés avec les juges arbitres, les arbitres chefs. Ouais. Donc, ils étaient les premiers à être devenus professionnels, et puis on a ajouté maintenant. Et c'était aussi une demande pour les joueurs, parce que, avec l'importance des tournois et des matchs qui montaient, ils voulaient avoir
l'assurance d'avoir un niveau d'arbitrage cohérent, identique.
Qui soit identique. Ouais. Voilà. Aussi, l'uniformité aussi de l'arbitrage, c'est très important. Ce qu'on essaie de faire avec constat, workshop, séminaire, meeting, avec ça. Et seulement, pour demander ça à des arbitres, pour demander un numéro de tournoi et d'être utilisé constamment, il fallait passer à un niveau de demi-professionnel. Parce que ça devient, c'est un peu naturel dans beaucoup de sports. Ça marche comme ça en tennis, où ils sont complètement professionnels au niveau. Donc, on a commencé à faire cette step Et on va voir comment ça marche. Ben, je crois que ça va marcher très bien. Ça va ouvrir un nouveau monde, même aussi à ceux qui vont monter, qui veulent faire de la carrière.
Ouais, c'est ça, c'était dans mon autre question. Penses-tu que ça va attirer des nouveaux officiels?
Ben, je pense oui, bien sûr, on a déjà des bonnes réponses de ça, parce que ce qu'on essaie de communiquer, c'est que bien sûr la nécessité qui sera pour sa disposition, ça change, mais tu vas faire aussi des expériences qui sont vraiment très très intéressantes, et bien sûr tu es aussi payé pour ça. Donc si tu aimes arbitrer, c'est tout simplement c'est ça va attirer aussi beaucoup des collègues, même les collègues qui viennent de commencer, les collègues qui sont dans le plan de leur carrière internationale. Donc parce que ça, c'est un groupe qui est chaque 3 ans, ça va être renouvelé, et donc ça, c'est un travail qui va être constamment regardé, développé. Peut-être que dans 3 ans, on va être plus que 7. On est 7 maintenant. On a commencé avec 7. Et on va être plus parce qu'il y aura plus de nécessité de ça, parce qu'on voit que le mécanisme, ça marche. Et pour l'instant, je suis vraiment très honoré d'être même dans le groupe qui a commencé à étudier la possibilité d'avoir les arbitres professionnels, mais aussi d'être comme des pionniers, non? Ou si on veut des guinea pigs experiment, non?
Ouais,
Pour
ouais, 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 ouais,
expérimenter, non?
ouais.
Donc on va
Ouais,
voir comment ça
des.
marche. Et je vais te dire pendant un an, l'année prochaine, ou
Ouais.
dans 2 ans, je vais te dire comment ça s'est marché, mais je suis sûr que ça va marcher très très bien.
Ouais. Ouais, bah, est-ce que tu connais Éric Lissilou?
Eric Lissiour, oui, je le connais. C'est un juge arbitre que j'aime beaucoup parce qu'il est très 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 passionné et très technique, et tous les aspects. Je sais
Il est semi, il est
il est
semi-professionnel.
semi-professionnel aussi. Oui, il est le semi-professionnel.
Ouais.
En fait, j'étais aussi en 2 tournois partie des évaluateurs, j'ai donné ma petite note sur Eric,
OK.
mais je pense que c'est le juge arbitre l'un des plus performants que j'ai vu pendant les
Ah
dernières
ouais.
années. C'est un bon ami aussi, j'ai toujours apprécié de travailler. Et je sais qu'il est dans des entretiens que vous allez faire pour. Oui?
Ouais, je l'ai. On l'a fait jeudi, vendredi dernier avec Eric.
Ah, ok, très bien, très bien.
Ouais,
Okay.
ouais, ouais. Ok. Alors toi qui connais bien l'arbitrage, est-ce que tu vois des choses qui pourraient être améliorées? Alors je sais que c'est pas ton rôle de dire ça c'est pas bien, mais ce serait quoi selon toi si l'arbitrage devait évoluer? Il faudrait faire quoi?
Bah, donc l'arbitrage, je pense qu'on est arrivé maintenant à une définition de l'arbitrage qui était très très ponctuelle. Et je ne parle pas seulement de la façon technique dans le monde arbitre, dans le monde des officiers techniques, mais aussi par rapport à la compréhension du jeu, par la compréhension que même les fans et les spectateurs du badminton pour avoir la façon que l'arbitre communique. Je trouve que maintenant, on est arrivé vraiment à être très, très, très clair dans notre décision, très, très clair ce qu'on veut communiquer aux joueurs. On est arrivé aussi par moyen d'un vocabulaire qu'on a, un vocabulaire qu'on étudie, qu'on va améliorer chacun. Il y a un petit appendice au règlement avec tous les expressions standards pour communiquer, et c'est pas seulement pour les joueurs, mais c'est surtout pour les spectateurs. Parce qu'avant, c'était un peu là, comme, oui, j'appelais une faute, mais qu'est-ce que c'est ça? Je disais seulement aux joueurs. Maintenant, il faut dire, aussi pour tout le monde, pour où il faut souligner la décision avec une manne, par exemple. Donc, je pense qu'on est arrivé dans un niveau qui c'est vraiment très très clair. Donc, je vais dire que une façon d'améliorer, peut-être que ça va changer quelque chose si le jeu, c'est la façon de jouer, ou il y aura un développement du jeu de badminton qui va nous demander de changer quelque chose. Si je te parle, par exemple, ce que je disais avant de la façon de gérer le retard sur le terrain, maintenant, au début, c'était un peu dur de comprendre, même avec les joueurs, les spectateurs aussi, ça semblait qu'on était devenu un peu plus sévère, un peu plus dur avec les joueurs. Maintenant, ils ont compris que c'est pour le jeu, c'est pour le badminton. Et on est arrivé à tout ça comme une échelle, non? Step by step, avec ça. Et on est arrivé dans un niveau que je disais, maintenant, si je vois des modifications, ça va être parce que on va s'asseoir dans une table et on va écouter les joueurs, les différents acteurs. Donc peut-être qu'on va changer quelque chose seulement si tous les acteurs vont nous demander ça, ou s'il y aura une nécessité de faire comme ça. Mais par rapport à ça, je trouve que vraiment maintenant tout c'est clair, et on va répondre de la façon la plus efficace aux problèmes qu'on peut avoir sur le terrain. Et les joueurs, la réponse des joueurs est très positive sur ça. Comme des protestes, des trucs qui ne sont pas compris. Il y a aussi beaucoup. C'est difficile d'avoir des grands problèmes sur le terrain, comme des protestes, des trucs qui ne sont pas compris. Il y a aussi beaucoup de commentateurs maintenant. Il y a les réseaux sociaux maintenant, qui parlent beaucoup. Et dans le côté de la communication, tout le monde est complètement connecté, et tous les experts, ou même les simples passionnés du badminton, peuvent savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Et le reste, c'est déjà couvert par les règlements et la connaissance qu'un arbitre a des règlements. C'est pour ça que je disais, maintenant, la communication, c'est une façon essentielle pour un arbitre.
Tu connais Mohamed Lamine Kateb?
Oh, Mohamed, je l'ai connu dans les championnats du monde junior à Toronto. Toronto.
Au Canada.
Et c'était au Canada, oui. Et c'était novembre 18. Alors là, je l'ai connu. C'est un mec très sympa, très sympa. On a beaucoup parlé avec. Si tu le vois, ça me fait plaisir de donner mon bonjour. J'utilise cette interview pour des questions
Exact.
personnelles.
Pour passer le message, mais non, non, on a beaucoup de
Ouais.
chance d'avoir Mohamed au Québec. C'est
Oui.
notre officiel par excellence. Et puis là, je pense que tu sais, mais la BWF a mis en place un programme pour accéder à la fonction d'arbitre en chef d'une manière un petit peu plus accélérée. Et Mohamed a été pour le Canada, donc il fait partie des deux candidats, je pense, qui vont suivre ce cursus pour devenir arbitre en chef. Pas tout de suite BWF, mais en tout cas il va suivre le chemin pour. Non, c'est quelqu'un de bien, Mohamed. Il est impliqué dans tous nos comités, que ce soit le para-badminton, pour le badminton pour les personnes souffrant d'un handicap. Il est sur nos comités de compétition, d'officiels, de. Il est sur tous les comités, c'est notre bénévole de l'année, c'est notre officiel par excellence.
Ouais,
C'est
très bien.
Mohamed.
Et si je me rappelle bien, il parle aussi italien.
Un petit peu,
C'est
je crois,
un petit
oui.
peu,
Oui,
oui. Donc, est-ce que,
ben, Ben, il parle
c'est
ben,
un.
français, anglais, arabe.
Ah oui, d'accord.
Ben, oui, peut-être un petit peu italien. Je... Puis un petit peu chinois, sa copine est
Ah
chinoise.
bon? Ah ok. Je te disais, c'est
Ouais,
important
donc.
d'avoir quelqu'un à côté de toi qui aime le badminton aussi, non? Donc j'imagine qu'elle aime le badminton aussi.
Oui. Mais oui, oui.
Donc j'attends de voir Mohamed dans un tournoi comme joueur arbitre, comme arbitraire, très tôt, voilà.
Est-ce que tu es déjà venu donc au Canada? Est-ce que on ne sait pas avec la Covid là, mais tu envisages peut-être de revenir au Canada?
J'ai jamais été à l'Open du Canada. Et là, c'est un tournoi que j'ai jamais été. J'aimerais voir venir très tôt. Mon ami Andrea, notre arbitre de noblesse italien,
OK.
il aime beaucoup l'Open Canada. Et donc, il est venu plusieurs fois à l'Open Canada. Mais l'Open Canada, c'est chaque année. Je l'ai mis dans mes notes, donc peut-être que cette année, je vais essayer d'y aller, même avec ma fédération. Donc on
Mais
va.
cette année,
Cette année, tu penses pas encore.
ben, c'est
Donc
compliqué
on
là,
va voir bien. Ouais,
c'est compliqué
c'est.
partout la COVID, mais
Oui.
on verra, on verra.
Oh, on verra, sinon 2022.
Une dernière petite question pour toi, l'anglais, est-ce que ça a été quelque chose de compliqué pour toi de, est-ce que tu parlais déjà anglais avant ou?
Oui, je parlais anglais un peu pour l'école, mais aussi en général, j'aime beaucoup les langues, et les langages, les idiomes. Et donc, j'ai toujours plaisir et j'étais toujours curieux avec les langues. Donc, c'est un peu, j'ai toujours la curiosité, ça m'aidait beaucoup. Et donc, je commençais à voyager quand j'étais 18, peut-être 18 ans. 19 ans. Je commençais à voyager pour les pays européens, donc j'ai fait pratique un peu
Pratique
et
l'anglais, ouais.
j'aimais, oui, bien sûr. Et ça c'est important parce que, comme je
Ben oui.
disais, c'est la bonne réponse, ça t'aide beaucoup. Donc il faut toujours
Ah, il faut pouvoir communiquer avec les
pouvoir.
joueurs.
Oui,
Ouais,
c'est
ouais,
vachement
ouais.
mieux. Il y a aussi des arbitres qui pratiquent pas l'anglais parfait, mais ils arrivent à délivrer un message très efficace aussi avec les yeux, avec la façon de s'adresser aux joueurs. Je peux te faire deux, trois exemples d'arbitres qui sont arrivés à être niveau maximum, mais de certifier, même si ils pratiquaient pas un anglais parfait, mais il se faisait bien comprendre, etc.
C'est ça, il est capable
Ouais.
de communiquer avec les
Ouais.
joueurs, avec l'arbitre en chef, avec.
Oui.
Ok. Ben écoute, Fabio, merci beaucoup.
Enfin, merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir d'être avec vous.
Ouais.
Je vous souhaite tout le bien pour le Badminton Québec. Et j'espère de vous voir très tôt. Et ça veut dire
Et oui.
qu'on a passé une période un peu de difficulté dans la vie et dans tout le monde. Donc, ça ferait le double de plaisir de vous voir très tôt.
Ok. Et pourras-tu peut-être essayer de m'envoyer, tu sais, une photo de toi en tenue officielle?
Oui, d'accord.
Parce que
Tenue officielle,
je
petit peu. Oui, d'accord, je pourrais envoyer de ce tournoi-là, par exemple, ou même des autres tournois. Pas de problème.
vais. Celle que tu veux, c'est faut
Ok.
pas qu'il y ait de faut pas que il faut que ce soit une photo pour laquelle tu as les droits. Quand je dis ça, je
Ok.
pense à Yves. Tu sais, je pense à Yves toujours
Ok.
qui prend plein de photos.
Oui,
Puis,
oui,
bah,
oui,
tu
oui. Ben,
sais, il veut.
en fait, j'ai beaucoup de photos de Yves qui me passent. Il y a toujours plaisir de
Ok.
cataloguer Tu sais qu'Yves, il est archiviste, donc
Oui.
il va faire le catalogue des arbitres. Donc,
Mais il va il est bientôt en retraite là.
Ah oui? Ok.
Je pense dans
Ah bon.
il me semble que c'est en juin prochain là où il va être en retraite.
Ok. Ah,
Donc
je vais le demander alors. Ouais. Moi, je suis sûr que je vais le voir cette année
Oh.
dans quelques tournois dans le
Il a
monde.
qu'une hâte, c'est de pouvoir repartir en Asie.
Oui, d'accord, oui. Je sais, je sais, je sais, je sais. Il
OK.
adore l'Asie et il y a beaucoup
C'est
d'amis
ça.
là-bas. OK.
Ouais.
Donc, ça m'a
Merci
fait beaucoup de
beaucoup.
plaisir
Ben,
et bon, merci à vous
moi
d'être
aussi,
avec nous
Fabio.
et à la prochaine et on se voit dans un tournoi ou dans le monde de badminton.
J'espère bonne continuation dans tes tournois asiatiques.
Merci, je vous dis au revoir dans la bulle. Où tu sors
Ouais,
là,
ouais, ouais.
il y a encore une semaine de tournoi et puis on sort de la bulle.
Ok, et après tu repars où? En Italie, en Allemagne, en...
Je reviens en Italie, je suis parti d'Italie et puis j'ai des trucs à faire comme pour mon travail et puis je reviens en Allemagne. Et pour les prochains
C'est parfait.
tournois, on ne sait pas encore parce que le calendrier c'était, mais il y a toujours à vérifier des choses donc. Je sais pas quel sera mon prochain tournoi.
Ok. Bah, merci beaucoup en tout cas,
Ok. Merci
Fabio.
à toi. Merci à toi.
Et à
Au
très
revoir tout le
bientôt.
monde. Merci. À très
Bye.
bientôt.
Bye
Bye.
bye.